Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de facture via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. Dans un instant, vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Vous avez écouté le journal et vous souhaitez un complément d'information. Et bien surtout, n'hésitez pas, appelez-nous, rejoignez-nous ici à Paris. Toutes vos questions nous intéressent. 33 9 693 693 70. Et vous pouvez également nous contacter via les réseaux sociaux, notamment la page Facebook de l'émission. Envoyez-nous évidemment vos coordonnées, votre numéro de téléphone en message privé afin que nous puissions vous recontacter. Et puis dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat et nous parlerons tout à l'heure du travail de mémoire concernant les tirailleurs africains. Pendant la Première Guerre mondiale, la France a fait venir 200 000 soldats africains pour combattre les Allemands. Environ 30 000 d'entre eux sont morts. Et justement, pour rendre hommage à ces hommes, un monument sera inauguré cet après-midi à Reims, dans l'est de la France, en présence du président Emmanuel Macron et de son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta. Alors dites-nous si à l'occasion du centenaire de l'armée de 1918, vous avez l'impression que la contribution des tirailleurs africains est suffisamment reconnue en France. Le travail de mémoire est-il selon vous à la hauteur? 33 9 693 693 70. Et je lirai évidemment tout à l'heure quelques-unes des nombreuses réactions, parfois assez virulentes, que nous avons reçues sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, comme promis donc, vos questions à la rédaction, des questions, tiens, sur l'organisation de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Le scrutin est prévu dans un mois et demi, le 23 décembre. Bonjour Derrick.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio France Internationale.
Merci, vous êtes à Kinshasa, on vous écoute.
Oui Juan, j'avais une question concernant le processus électoral ici en RDC. On a vu le camion et les aéronefs de l'armée congolaise ont été mis à la disposition de la CENI pour les élections du 23 décembre 2018. Mais là, la question était, comment expliquer cette intervention de l'armée congolaise auprès de la CENI? Et avec cette intervention, peut-on espérer que tous les matériels de la CENI seront bien acheminés vers le bureau de vote pour les élections du 23 décembre 2018?
Tout sera-t-il prêt le jour J? Effectivement, c'est une bonne question. Bonjour Sonia Rollet.
Bonjour.
Journaliste au service Afrique de RFI, Derrick en parlait à l'instant. 150 camions, une dizaine d'avions et d'hélicoptères de l'armée congolaise sont donc à la disposition de la commission électorale pour permettre justement l'acheminement du matériel électoral à travers le pays. Comment expliquer cette intervention de l'armée?
Alors vous savez, la République démocratique du Congo a décidé de financer seule ces élections et a décidé également donc de pour la première fois en fait de son histoire hein, de ne pas utiliser l'assistance des Nations Unies. Donc la MONUSCO sur demande du Conseil de sécurité a décidé de devait appuyer le processus électoral en RDC, ça fait partie de son mandat et donc il y avait eu une demande à l'époque en décembre 2017 pour que la CENI, une demande de la CENI, pour que en fait la MONUSCO lui fournisse une certaine aide logistique. Donc cette aide était environ estimée à 40 millions de dollars, 80 millions de dollars au total avec l'assistance technique également qui elle est en cours. Il y a 277 experts de la MONUSCO qui sont en train d'assister la CENI à l'heure actuelle. Et donc il fallait bien compenser ces avions et ces hélicoptères qu'allait fournir la MONUSCO. La MONUSCO avait prévu 20 hélicoptères et 4 avions pour fournir, enfin pour déplacer le matériel électoral sur environ 50% des bureaux de vote parmi les plus éloignés. On sait qu'en moyenne, pour organiser les élections en RDC, on a besoin d'une cinquantaine d'aéronefs. Donc là, la commission électorale, à l'heure actuelle, en a 18. Et puis à compenser avec un certain nombre de camions pour essayer de remplacer ce transport aérien qui était prévu par du transport en camion. Alors est-ce que ça va suffire? Ça c'est la bonne question, c'est la question que se posent à l'heure actuelle tous les experts électoraux.
Et notamment l'opposition, l'UDPS, le parti historique en République démocratique du Congo, qui qualifie de mise en scène la remise de ces véhicules de l'armée à la commission électorale.
Disons que c'est vrai que la communauté internationale avait exprimé des inquiétudes, l'opposition a exprimé des inquiétudes, voyant que justement il y avait le refus de cette aide internationale et le fait que les annonces faites par la CENI jusqu'à présent ne correspondaient pas à ce qu'on voyait d'habitude sur un processus électoral en RDC. Donc c'est vrai qu'il y avait volonté, en tout cas de la part du gouvernement ou de la CENI, de montrer qu'il y avait des moyens qui étaient mis sur la table. Alors, évidemment, ces moyens, ce sont les moyens de l'armée. Ça pose aussi la question, et c'est une question qui est posée par la société civile, de savoir, est-ce que c'est vraiment à l'armée de se mettre dans l'organisation du processus électoral ? Il y a même eu des demandes pour que les chauffeurs soient civils, par exemple.
Oui.
Donc c'est vrai que ça fait partie des questions, et c'est la grande question qui va se poursuivre sur les prochaines semaines, c'est est-ce que ces moyens vont suffire quand on sait que sur d'autres processus électoraux, sur les précédents cycles électoraux, eh bien, il a fallu beaucoup plus de moyens aériens pour arriver à transporter à temps, et encore pas toujours à temps, le matériel électoral.
Et on apprend également que 150 autres camions sont annoncés dans les prochains jours, des camions de l'armée pour aider la commission électorale. Le pays sera-t-il prêt le jour J, le 23 décembre, pour ces élections tant attendues? On aura l'occasion évidemment d'en débattre avec vous, les auditeurs. Merci beaucoup Sonia Rollet. Derrick, on a répondu à vos questions?
Oui, bien sûr.
Bonne journée alors à Kinshasa. Merci de nous écouter. 9h16 ici à Paris, 33 9 693 693 70. Des questions maintenant sur une autre élection présidentielle, celle qui se tiendra demain à Madagascar. Bonjour Alceni.
Bonjour Jean Gomez et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez de Conakry, vous êtes à Labé exactement. Nous vous écoutons.
J'ai appris qu'une vingtaine de candidats ont dénoncé des fraudes électorales massives. Or, les institutions électorales et les partenaires internationaux disent à l'envers que le processus est tout à fait fiable. Mm-hmm. Comment expliquer ce refus de la part des candidats? Est-ce que c'est justifié?
Oui, bonne question, surtout que le haut représentant de l'Union africaine a clairement qualifié ce processus électoral d'exemplaire. Bonjour Alexandra Branjon.
Oui, bonjour.
Envoyé spécial de RFI à Madagascar, nous allons suivre avec vous tout au long de la journée de demain ce scrutin présidentiel. Alors sur les 36 candidats qui briguent la magistrature suprême, une vingtaine dénoncent tout de même de supposées fraudes électorales. Comment l'expliquer?
Oui, ils ont demandé d'ailleurs la réouverture des listes électorales et le report de ces élections. Ils ont fait appel auprès de la Haute Cour constitutionnelle et du gouvernement pour dénoncer ces listes incomplètes, mais ils n'ont pas eu gain de cause. Alors, pourquoi des listes incomplètes? Bien, écoutez, ils évoquent de nombreuses irrégularités, des noms fictifs sur les listes, des électeurs qui ne sont pas sur les bonnes listes, des numéros de cartes qui ne correspondent pas aux pièces d'identité, et également, ils parlent de bureaux fictifs. Est-ce qu'on peut parler de fraude ou d'anomalie? Une chose est sûre, c'est qu'il y a des erreurs sur ces listes. Selon une analyste politique malgache à qui j'ai parlé, le problème de la liste électorale est principalement un problème d'état civil. La dernière fois qu'il y a eu un recensement dans le pays, c'était en 2006, et à l'époque, il a été établi que 7 millions d'enfants n'avaient pas d'acte de naissance. Aujourd'hui, ces enfants sont majeurs et selon elle, nombreux d'entre eux n'ont pas les documents nécessaires pour être inscrits.
Et on parle également, Alexandra Branjon, d'électeurs fictifs, de personnes décédées et qui sont toujours sur les listes électorales.
Tout à fait. D'ailleurs, on l'a évoqué, moi on m'en a parlé pas plus tard qu'hier, alors que j'étais dans les zones rurales. C'était une des préoccupations dans les villages, en disant qu'il y avait des noms sur ces listes de personnes qui étaient décédées. Alors théoriquement, il faut une pièce d'identité pour aller voter, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait un trafic de documents. Il faut quand même noter que la CENI, la commission électorale, avait appelé les gens à venir vérifier s'ils étaient sur les listes, si leur nom figurait bien, et à soulever toutes les irrégularités qu'ils pouvaient constater. Ces citoyens avaient jusqu'au mois d'avril pour le faire. Certains analystes disent aussi que c'est à la société civile, aux citoyens eux-mêmes, d'effectuer ces vérifications. Alors en effet, une délégation de la francophonie a jugé récemment que ces listes étaient correctes, c'est le terme utilisé, tout en remarquant certaines anomalies. En tout cas, les trois gros candidats vont déployer leurs observateurs dans les bureaux de vote des grandes villes. Ce n'est pas là qu'il y aura des problèmes. S'il y en a, ce sera plutôt dans les zones reculées, notamment dans le sud.
Dans le sud de Madagascar. Autre question, Alceni. Alceni, êtes-vous là?
Oui. Quelles sont les mesures prises par l'Union africaine pour éviter une crise post-électorale?
Alors, je ne sais pas si on peut parler de crise post-électorale. En tout cas, les partenaires internationaux, Alexandra Branjon, les partenaires internationaux, dont l'Union africaine, assurent que le processus électoral est fiable.
Je vous ai pas entendu, la ligne coupe.
Alors, l'auditeur nous demandait quelles mesures comptaient prendre les partenaires internationaux, et notamment l'Union africaine, pour éviter une éventuelle crise post-électorale.
Alors, pour tout le monde, l'enjeu est que ce scrutin se déroule de la façon la plus transparente et crédible, afin qu'il ne puisse pas y avoir de contestation de la part d'un des candidats et de crise, hein, puisque les crises électorales sont cycliques dans ce pays. Et les observateurs ont donc été déployés sur le terrain. Alors, par exemple, l'Union européenne a déjà déployé depuis un mois une quarantaine d'observateurs dans différentes parties du pays, et une cinquantaine d'autres est arrivée la semaine dernière. L'UA, l'Union africaine, la SADC ont également envoyé leurs propres observateurs. Ils sont arrivés ces derniers jours. C'est vrai qu'on peut déployer peut-être le manque d'observateurs, de moyens déployés par la communauté internationale au vu de l'enjeu et des moyens qui ont été déployés pour d'autres élections sur le continent. Je pense notamment au Zimbabwe il y a quelques mois.
Merci Alexandra Branjon, envoyée spéciale de RFI à Madagascar. On vous retrouvera évidemment demain avec nos correspondants pour suivre avec vous donc cette élection présidentielle. Vous qui êtes à Madagascar, vous souhaitez peut-être témoigner, nous raconter comment vous vivez cette échéance électorale. N'hésitez pas, appelez-nous et on se fera un plaisir de vous donner la parole vendredi dans la Libre Antenne, puisque je vous le rappelle, le vendredi, vous commentez l'actualité de votre choix. On continue à parler de processus électoral. On va parler d'une autre élection présidentielle. Celle-ci est prévue un peu plus tard, dans 6 mois, au mois d'avril. C'est le scrutin présidentiel qui se tiendra en Algérie. Bonjour David.
Oui, bonjour Juan, bonjour.
Bienvenue, nous vous écoutons.
Oui, le président algérien Aboutezid Bouteflika vient d'annoncer sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Comment expliquer cette déclaration du chef de l'FM alors que le président algérien ne s'est pas encore exprimé sur cette question?
Oui, alors vous avez raison de préciser effectivement que ce n'est pas Abdelaziz Bouteflika lui-même qui a annoncé sa candidature, qu'il souhaitait briguer un cinquième mandat. C'est le patron du FLN, Jamel Ould Abbès. Bonjour Leïla Berato.
Voilà.
Correspondante de RFI à Alger, voilà donc cette annonce qui est très commentée évidemment en Algérie. Seulement voilà, le président Abdelaziz Bouteflika ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Comment expliquer donc la déclaration du patron du FLN ?
Eh ben, d'abord, il faut rappeler que Abdelaziz Bouteflika ne s'est pas exprimé en public depuis 2014 et sa prestation de serment lors de son élection pour un quatrième mandat. Ensuite, en 2014, c'était déjà un proche qui avait annoncé sa candidature à sa place. À l'époque, c'était le Premier ministre Abdelmalek Sélal, qui avait d'ailleurs par la suite mené la campagne électorale pour le président Bouteflika. Donc il est très probable que si le président Abdelaziz Bouteflika souhaite annoncer sa candidature, cela se fera par le biais de quelqu'un d'autre. Mais il faut comprendre aussi qui est Jamel Ould Abbès. Il est le chef du FLN, le premier parti du pays, le parti historique et majoritaire. Et le président d'honneur de ce parti, c'est Abdelaziz Bouteflika. Le chef du FLN est donc un fidèle du président. Et cette déclaration, il faut la voir comme une affirmation de son soutien indéfectible à Abdelaziz Bouteflika. Cela peut répondre à deux enjeux. D'abord un enjeu interne au parti. Jamel Ould Abbès rappelle qu'il est un soutien du président et que donc il a toute sa place à jouer dans la succession. Et puis un enjeu externe. Parler de cinquième mandat, cela permet en quelque sorte de paralyser toute tentative d'opposition parce que cette déclaration s'accompagne d'autres déclarations de soutien au cinquième mandat, celle du syndicat officiel, celle du patronat du FCE, celle d'autres partis politiques et d'autres organisations de la société civile. Alors, il faut préciser autre chose, c'est que très peu de temps après sa première déclaration, où il annonce donc cette candidature d'Abdelaziz Bouteflika, Jamel Ould Abbès revient sur sa déclaration en affirmant que le président a été sollicité et qu'il n'a pas encore répondu. Et là, le chef du FLN lance aux journalistes, ne parlez pas de cinquième mandat, moi je demande qu'il continue sa mission. Donc on imagine qu'une telle déclaration n'était pas vraiment prévue par l'entourage du président et qu'elle a eu un impact plus grand que prévu également, notamment parce que les médias en ont beaucoup parlé.
Effectivement, et on a même fait réagir nos auditeurs la semaine dernière, et on imagine, comme en 2014, que la candidature d'Abdelaziz Bouteflika sera annoncée officiellement le plus tard possible. C'était le cas il y a donc 4 ans. Elle avait été confirmée moins de 2 mois avant le scrutin. Merci beaucoup Leïla Berato, correspondante de RFI à Alger. Bonne journée évidemment à David qui nous appelait. Il nous reste 4 minutes, le temps de répondre à une dernière question. Une question sur le Brésil et le futur ministre de la Justice du nouveau président Jair Bolsonaro. Bonjour Alimou.
Bonjour Monsieur Rouen et bonjour à tous les auditeurs de la radio internationale.
Vous êtes à 300 km à l'est de Conakry, vous nous appelez donc de Mamou en Guinée, soyez le bienvenu, nous vous écoutons.
Le juge Jair Bolsonaro s'occupait de... le juge Sergio Moro s'occupait de l'opération Lavage à dos. Il avait condamné l'ancien président Lula, il devait auditionner dans 15 jours. Son entrée au gouvernement peut-être remettre en cause son impartialité dans la condamnation de Lula.
Alors, c'est une bonne question que vous posez, Alimou. C'est vrai que le fait que Sergio Moro soit le futur ministre de la Justice, ça pose un certain nombre de questions au Brésil, puisque c'est lui, le juge Moro, désormais futur ministre, qui a envoyé en prison l'ex-président Lula. Bonjour Gaspar Estrada.
Bonjour.
Spécialiste, expert de l'Amérique latine à l'Observatoire donc de l'Amérique latine à Sciences Po, est-ce que cette nomination ne risque pas de mettre en doute l'impartialité du juge et de remettre aussi un peu en question cette opération Lavage Express qui a donc permis d'envoyer Lula en prison?
Sans aucun doute, moi je pense qu'il y a des éléments factuels qui permettent d'accréditer cette thèse. Tout d'abord, puisque cette opération Lavage à dos et notamment les actes juridiques qui ont été menés par le juge à l'encontre du président Lula ont eu un timing politique parfait. Il y a eu des procédures qui ont été accélérées. Il y a eu même, selon des juges de la Cour suprême, une manipulation des mécanismes de la prévention préventive pour mener à l'incarcération du président Lula. Et surtout, je pense qu'il y a un élément très grave, c'est que 6 jours avant le premier tour, le juge Moro a fait fuiter dans la presse un certain nombre d'éléments accréditant une implication de Lula dans des affaires de corruption. Or, à ce moment-là, selon le vice-président élu, le général Mourão, Sergio Moro avait déjà négocié sa nomination en tant que ministre de la Justice. Donc de ce point de vue-là, il y a de vraies questions qui se posent.
Et donc on peut dire clairement aujourd'hui, Gaspar Estrada, que le juge Moro a contribué à l'ascension de Jair Bolsonaro et à son élection il y a une dizaine de jours.
Il n'y a pas de doute par rapport à cela. D'ailleurs, le propre Jair Bolsonaro l'a déjà déclaré il y a quelques jours en disant que le juge Moro avait contribué à son élection. Et je pense qu'il s'agit d'un élément négatif pour la suite, puisqu'on voit bien que le Brésil est un pays aujourd'hui très polarisé et cette nomination ne va qu'aggraver cette situation.
Ouais, donc le juge Moro finalement récompensé pour avoir emprisonné Lula, le leader de la gauche brésilienne. Vous aviez une dernière question à Limoux.
Oui, maintenant qu'il est nommé ministre de la Justice, quelle suite sera réservée à cette opération?
À quel avenir pour l'opération Lavage Express, Gaspar
pour le
Estrada?
Moment, il y aura une nouvelle juge qui va se substituer au juge Moro. Mais il est clair qu'à partir du moment où il y aura un nouveau gouvernement, cette opération va perdre en quelque sorte sa figure de proue médiatique, politique. Et je crains que cette opération de lutte contre la corruption ait la même fin que l'opération Manipolité en Italie, qui a inspiré l'opération Lavage Express et qui s'est terminée dans le discrédit des juges qui ont mené à bien cette opération.
Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Quelques instants, Gaspar Estrada, bonne journée à vous. Alimou, merci de votre fidélité. On va marquer une pause. Sachez, avant que demain à cette heure-ci, nous serons en émission spéciale, nous commenterons les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis, des élections qui incontestablement se sont transformées en référendum pour ou contre Donald Trump. Ce sera donc l'occasion pour nous et pour vous de dresser un bilan des 2 premières années de Donald Trump. On parlera, si vous le souhaitez, des mesures migratoires, de la crise nord-coréenne, du bras de fer avec l'Iran, du statut de Jérusalem, des accords de Paris sur le climat. Bref, les sujets ne manquent pas. Vos commentaires, mais aussi vos questions. Nos experts seront dans ce studio pour vous répondre. On parlera de politique intérieure, si vous le souhaitez. On attend vos questions également sur la politique économique, sociale, étrangère de Donald Trump. Bref, émission spéciale demain, 1 heure, pour vous donner la parole. Après, donc, les élections de mi-mandat qui commencent dans 2 heures, pratiquement un peu plus de 2 heures aux États-Unis. Restez avec nous, à suivre le journal et on revient dans 10 minutes.